à l'écoute de Radio-Canada. Tout de suite, le magazine. Coronavirus, le développement de l'Afrique, la meilleure des antidotes. Titrait un article du site web Mondiafrique. L'OMS tirait la sonnette d'alarme le 18 mars. L'Afrique devrait se réveiller et appeler le continent à se préparer au pire. Le continent serait promis à une crise économique sévère, causée d'une part par les mesures de confinement et de restrictions d'activité prises dans de nombreux pays, par l'arrêt des échanges et du commerce international. Le blocage des ports et d'autre part en raison de la baisse brutale du cours du pétrole initiée peu de temps avant la pandémie. De la baisse des cours des matières premières s'ajoute le spectre d'une crise sociale et comme si ce n'était pas suffisant, une crise alimentaire pourrait s'en suivre avec la fermeture des frontières. L'Afrique, les Afriques, face à la pandémie. Nous avons joué par téléphone Benjamin Jaïr, mobilisé depuis de nombreuses années sur des actions d'entraide au développement sur le continent et plus particulièrement au Sénégal ou encore au Gabon, accompagné de témoignages d'autochtones par téléphone.
Oui, bonjour, j'ai effectivement des nouvelles d'Afrique de l'Ouest principalement. On a quelques ressortissants français qui sont coincés dans certaines grandes villes comme Dakar ou Ziguinchor. Quelques amis aussi sénégalais qui vivent en France et en Italie qui sont repartis voir leur famille cet hiver et qui sont coincés aussi dans certaines villes et villages. Et puis au sud du Sénégal, en Casamance, on a un projet agricole en permaculture avec lequel justement on entretient des relations étroites quotidiennes. Et un autre projet là qui se développe au Gabon, où effectivement le corona est arrivé aussi, et puis des amis de longue date là, qu'on a au Burkina Faso. Voilà. Alors dans la grande ville de Dakar, donc là apparemment on en est au deuxième décès, même maintenant à l'heure où on parle, il y a une certaine habitude des pandémies ou des épidémies, en tout cas avec une certaine expérience du choléra notamment, même encore ces dernières années, dans les quartiers HLM ou les quartiers plutôt considérés comme bidonvilles, c'est-à-dire des quartiers qui sont souvent inondés. Donc il y a une certaine habitude à justement rester chez soi et à éviter les grands rassemblements publics. Donc là, ce qui a été mis en place rapidement par le gouvernement, c'est de fermer les marchés, parce que pour ceux qui ont l'expérience d'aller dans des marchés en Afrique, il y a une grande promiscuité et puis beaucoup d'étals et les gens sont très serrés. C'est un peu comme des souks dans le Maroc par exemple, où on passe entre les étals et on passe à une ou deux personnes maximum en se touchant tout le temps. Donc là, ils ont assez bien réagi et rapidement en fermant les marchés. Et puis aussi les lieux de culte qui sont dans le quotidien des Africains musulmans, des lieux de rencontre chaque jour et plusieurs fois par jour, eh bien ont été fermés tout de suite après l'annonce, en tout cas, de l'épidémie sur le territoire.
Bonjour ou bonsoir, Monsieur Zaïr. Ça dépend sur l'heure que vous avez reçu ce petit message de Beka Aïdara. Donc j'espère que ça va là-bas. Moi, j'ai bien ici. Je vis bien ce confinement car en ce moment, je fais un peu d'activité à la maison. J'ai mon petit jardin. Je fais du petit jardinage en même temps. Il y a mon poulailler, quoi. C'est ça mon activité en tout cas. Et parfois, je lis beaucoup et voir mes cours, faire des exercices. En ce moment de confinement, c'est ça mon activité. Certes, je ne sors pas beaucoup. À part faire du sport, quand je sors, c'est pour aller faire une 25 minutes de course et revenir faire des exercices à la maison. C'est ça mon activité en ce moment, quoi. Et j'espère que vous allez bien. Allez, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye.
Comme chez nous également, les écoles, les lieux où, de rencontre également, comment ça se passe et comment réagissent finalement les Sénégalais à ce confinement, j'imagine.
Oui, effectivement. Alors, il y a deux types de lieux parce qu'il y a souvent deux types d'horaires. Et c'est ça la grande différence avec chez nous, c'est que les écoles ont été fermées tout de suite, le milieu scolaire d'une manière générale, la journée.
Oui, c'est pour le coronavirus. On dit reste chez vous, on reste à la maison, on ne sort pas. On a fermé les marchés, beaucoup de boutiques, on a tout fermé ça.
Et puis pour tout ce qui concerne le soir, et on sait qu'en Afrique on vit beaucoup la nuit, beaucoup tard le soir, parce que c'est là qu'il fait le moins chaud, hein, tout simplement. Et bien là, c'est un couvre-feu directement qui a été installé, puisque malheureusement, dans ces pays, et je pense aussi au Burkina, à mes amis du Burkina là-bas, on a l'habitude justement des couvre-feux. Et là, donc, de 20h le soir à 6h du matin, le couvre-feu est installé. Et du coup, là, c'est même pas possible de sortir. J'avais le témoignage là d'une amie, Astou, qui m'a envoyé un vocal hier, pour me dire que les gens se faisaient taper dès qu'ils étaient attrapés la nuit dehors.
Les couvre-feux, ils ont monté à 20h sur la route. De ne pas sortir, personne ne sort pas. Si quelqu'un qui sort, on le frappe.
Très bien, donc c'est assez rigoureux, on va dire même peut-être un peu militaire, non, comme un petit peu.
Oui, c'est ça. Hein, l'Afrique, elle a toujours ses deux côtés. L'aspect très laxiste, en tout cas, où on est assez flegmatique, on pense à peine au lendemain. Et puis l'aspect très militaire, ou quand une décision de couvre-feu est prise et quand l'armée est sur le territoire, là, ça rigole plus et c'est la matraque qui dirige.
Alors là, vous parlez effectivement de grandes villes, hein, bien sûr, avec toutes les infrastructures ou les structures même de santé qui doivent exister. Est-ce que c'est un peu plus compliqué pour peut-être les campagnes?
Tout à fait. Donc, en campagne, donc, il y a un petit peu moins de moyens humains et de moyens militaires pour laisser les gens chez eux. Donc, il n'y a pas de contrôle. Donc, je sais que les gens ont pris très à cœur de faire un peu comme ils ont vu sur les réseaux sociaux en Europe. Donc, ils ont installé de quoi se laver les mains dans les rues et dans les familles, qui sont des grandes familles, très rapidement. Et puis, ils se sont créés un peu une sorte de milice locale pour justement empêcher un petit peu les gens de sortir. Et surtout, le gros phénomène, c'est que les transports se sont complètement arrêtés. Donc, du coup, de toute façon, les gens, même s'ils sont cloisonnés dans leur maison ou dans leur village, bah, ne voyagent plus. Donc, du coup, ça les confine au moins à l'échelle du village.
Alors, on sait, mais même en Europe, hein, mais on sait aussi qu'en Afrique, il y a énormément de personnes qui vivent dehors, dans la rue, notamment les fameux enfants de la rue de la capitale, hein, sénégalaise. Là aussi, il y a un vrai danger public, en quelque sorte, pour, au niveau sanitaire, pour ces personnes, hein, j'allais dire.
Alors, effectivement, les enfants des rues, qu'on appelle plus communément les talibés, sont vraiment les premières victimes, parce que déjà, ils sont pas en santé, ils sont pas du tout en bonne santé, puisqu'ils sont mal nourris. Ils dorment dehors, etc. Donc du coup, il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés et on va d'ailleurs faire un appel sur les réseaux sociaux pour les jeunes talibés de Casamance qui du coup vont être soutenus par des groupes de jeunes. Et ce qui va manquer un petit peu là, c'est de quoi les nourrir. Donc on va essayer de faire une collecte dans ce sens. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les hôpitaux et le milieu médical leur refusent souvent l'accès à ces enfants parce que de tout temps, en tout cas, ce sont des parias et on les rejette de ce genre de lieu et encore plus dans la situation actuelle où on préfère apparemment les laisser dehors. Donc là, j'ai quelques témoignages qui parlent de ça et qui sont des témoignages assez violents. Donc c'est un petit peu compliqué. Les ONG sont parties. Les ONG, je dirais, qui sont dans un humanitaire de premier niveau sont parties. Donc du coup, c'est les gens qui se débrouillent un petit peu entre eux et qui créent un propre réseau de solidarité et qui en appellent en tout cas à l'Europe et à la diaspora africaine pour les soutenir.
Pour les talibés qu'on appelle enfants de la rue au Sénégal, qui étudient dans les daras qu'on appelle l'école coranique en français. Donc moi, j'ai décidé de les aider parce que j'ai vécu avec eux. Certes, moi, je ne mendiais pas, mais j'ai vécu avec eux à Rue Fixe, à Dakar. Ces jeunes-là, ils sont fatigués. Et moi, j'ai vu que jusqu'à présent, l'État n'a rien fait pour eux, pour les aider, pour qu'ils restent chez eux. Et j'ai décidé de créer un mouvement qu'on appelle Azir pour les talibés. Et j'ai mis 10 de mes amis là-bas pour qu'ils aident ces jeunes-là. Nous avons commencé à cotiser nous-mêmes. Chacun ce qu'il a, il donne. Puis on descend sur le terrain. Sur le terrain, c'est dans les marchés, dans les boutiques. On va aller dans les boutiques demander, faire une quête. Si chacun a quelque chose à donner, ils vont donner. Après, nous, on va acheter des matériaux, des aliments, des produits. Amener ça dans les daras, écoles coraniques, comme ça, les marabouts là qui disent aux enfants d'aller mendier vont stopper ça. Comme ça, les enfants vont rester chez eux comme tous les enfants du Sénégal, comme tous les enfants du monde. Et c'était ça quoi, mon but. Je suis jusqu'à présent dans cette chemin, j'ai pas arrêté, c'est un peu difficile, mais je continue à le faire quoi.
Il y a d'autres initiatives. Donc nous, on a pris une initiative dans la ferme dont on s'occupe à Cabadio, en Casamance, c'est d'accueillir justement les gens et les jeunes qui sont orphelins ou qui n'ont pas vraiment de chez soi. Et puis au Gabon, notre amie Audrey a accueilli pas mal de jeunes adolescents qui squattent certains lieux. Là, c'est plutôt en ville pour les occuper, les faire peindre. Ils ont organisé une grande peinture sur une fresque, etc. Mais par contre, ils se sont déjà fait déloger par la police à plusieurs reprises. Heureusement, la presse est assez présente et donc, du coup, ça temporise toujours un petit peu.
Il faut savoir que ce sont des enfants, des fois âgés de 5 ans. Hein. Voilà, ils sont très jeunes dans la rue. Hein.
Ah oui, c'est même 5 ans, c'est déjà presque des grands, puisque moi, j'ai effectivement vécu dans les quartiers HLM de Dakar pas mal d'années et j'accueillais vraiment des bébés et des tout petits sur le pas de la porte pour les nourrir. Ils s'endormaient en mangeant tellement ils étaient fatigués, en fait. Donc, c'est vraiment, il y en a énormément.
Le Sénégal et ce fameux traitement de l'hydro, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, de l'hydroxychloroquine, quoi en penser sur ces 50 patients qui normalement sont sous ce traitement? J'avoue que, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est pas évident de se prononcer là-dessus.
Ouais,
moi, personnellement, j'ai peu de recul là sur le sujet et j'attends. Là, j'ai contacté un médecin, Patrick Deboisse, donc, qui est médecin à Marseille et qui travaille beaucoup sur le Sénégal notamment. Et on a commencé à échanger un petit peu pour avoir des avis un peu plus responsables et maîtrisés en tout cas.
Il y avait un petit côté quand même de faire des tests en quelque sorte sur en Afrique, c'était un petit peu. Enfin, je pense que la population a été un peu choquée peut-être.
Oui, alors ça c'est vraiment l'information de premier niveau, c'est le fait que les gens ont été choqués. Moi, j'ai reçu des dizaines de messages de mes amis me disant mais pourquoi vous voulez nous tester, qu'est-ce qui se passe, etc. On a peur, on a beaucoup de parents là, dont une jeune maman là, dans la ferme qui vient d'accoucher, donc qui va devoir faire vacciner ses enfants. Donc elle avait très peur que son gamin finalement serve de cobaye, etc. Mais je crois que ça a une fois de plus montré ce qu'on a toujours fait là-bas, hein, notamment dans le cadre de la polio, c'est-à-dire de se permettre en tout cas des tests, des essais, et de voir avec ce continent à qui on a déjà tout pris, comment on peut continuer de l'utiliser sur tous les plans. Donc ça, effectivement, c'est pas évident de se prononcer là-dessus. Mais j'attends de voir un peu sur le côté santé, ce que ça donne tout ça, mais effectivement, voilà. Alors, il y a autre chose qui est un petit peu dit par certains, c'est le côté renforcement, en fait, de la débrouillardise et de la vie quotidienne autour de l'agriculture. Voilà. Il y a plusieurs jeunes qui expriment le fait qu'ils ont démarré un petit jardin. Il y en a un qui parle de son petit élevage de poulets. Et je crois qu'il y a un petit peu comme chez nous. Moi, je vois au magasin beaucoup de gens qui achètent des graines, beaucoup de gens qui du coup, se disent qu'il va falloir commencer à revenir vers la terre et vers l'agriculture. Et c'est un petit peu ça, les messages que j'ai reçus. Ils sont assez axés là-dessus.
Nous, on fait la construction des cases de lapins. On a presque fini. Ça, c'est cool. Et tout va bien, quoi. Yodé, allez, ciao. Bonne nuit.
Et c'est plutôt une bonne chose que d'être autonome finalement.
Bien sûr, c'est ce qu'on montre avec la permaculture d'une manière générale. Et c'est ce que apparemment, quand les gens qui ont écouté le discours du président ont retenu, c'est qu'il y a beaucoup de termes qui ont été utilisés du monde de la permaculture, design, résilience. Il y a des choses qui ont été. Donc du coup, on avance un petit peu vers ça. Et là-bas, en Afrique, ils n'ont pas attendu d'avoir du vocabulaire pour s'exprimer. En tout cas, dès qu'ils ont un poulet ou des poules, ils s'en occupent encore plus qu'avant. Ils font tous leur petit jardin, ils me posent plein de questions, ils m'envoient des photos pour avancer là-dessus, quoi.
Ouais, le confinement se passe bien ici, Benz. Le confinement se passe très bien ici. Et en France aussi, ça se passe bien là-bas. Ouais, tout le groupe est là à Bendoula. On est motivé, le travail, les jarosas, la construction de la nouvelle maison et la maison de lapins. Ça se passe très bien. Ouais, je vous salue tout le monde. Allez, bye.
Et c'est ce qu'on doit justement aujourd'hui retenir de ce genre de cataclysme, en tout cas international. C'est que c'est pas l'économie de nos dirigeants et l'économie de nos sociétés aujourd'hui qui nous feront manger demain.
Avec chaque jour ça augmente, il y a beaucoup de guéris. Il y a beaucoup de guéris, mais il y a beaucoup de contamination aussi. On ne sait pas qui a la maladie qui donne, si c'est la contamination. Si à la maison comme ça, c'est Kermosar.
Il n'y a pas une Afrique, mais des Afriques. Qui peut douter que l'amélioration de l'accès aux services essentiels, eau, électricité, assainissement, est un facteur d'amélioration de l'efficacité de la lutte contre le développement de la pandémie.
Bonsoir tout le monde, salut tout le monde. Là, on est à Bendla, tout se passe bien, le travail, les boulots se passent très bien, voilà. Et comment va tout le monde, j'espère que tout le monde va très bien. Ok, ciao.
Votre magazine en réécoute sur radio-calade.fr.